David Sanchez.
Bonjour, l'enseignante neuchâteloise qui avait bâillonné un élève ressort blanchie de son procès. La plupart des autres accusations n'ont pas été retenues. Les élections législatives russes sous la loupe du Conseil de l'Europe. Le conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridé s'est rendu sur place avec une délégation pour évaluer la situation sous condition. La Chaux-de-Fonds en découdra avec Tsug Academy ce soir. L'équipe ferme du club sougois se retirera du championnat dès la saison prochaine. Elle ne désirait pas se conformer aux nouvelles règles imposées par la société anonyme de la Swiss League. Et cet après-midi, le temps devrait s'éclaircir au-dessus de notre région. La soirée s'annonce donc dégagée. Le verdict est tombé dans l'affaire de l'enseignante qui avait bâillonné un jeune élève. Le tribunal de police à Boudry a prononcé son acquittement ce matin. La plupart des autres accusations n'ont pas été retenues et cet épisode ne suffit pas à lui seul à prononcer une condamnation sur le plan pénal, selon la juge Sonia Bernard-Mia.
Oui, un comportement inadéquat mais pas pénalement répréhensible, c'est le raisonnement qui a conduit le tribunal de police à acquitter cette enseignante de 42 ans ce matin. Cette femme en charge d'enfants de 4 à 6 ans avait admis avoir posé un foulard sur la bouche de l'un de ses élèves, mais réfutait les autres accusations émanant d'une fillette dont la mère a porté l'affaire devant la justice. Les faits remontent aux années 2015-2017, mais la plainte n'a été déposée qu'en septembre 2020. La fille de la plaignante dit avoir été attachée à un banc, bâillonnée, et laissé isolé sans surveillance.
Mais cette version n'a pas trouvé beaucoup d'écho ailleurs.
Pour le tribunal, les interrogatoires des parents et élèves présents à cette époque ne corroborent pas ces dires. Seul l'épisode du garçon bâillonné revient dans les différentes déclarations. Pour la juge, la direction scolaire a pris les mesures nécessaires au moment des faits en transférant l'enseignante dans un autre collège après avoir reçu plusieurs plaintes de parents. Le seul épisode du foulard ne permet pas de retenir les accusations de contrainte et de violation du devoir d'assistance, selon le tribunal. L'enseignante est donc blanchie. Sur le plan administratif, elle a été suspendu de ses fonctions en juin en lien avec cette affaire.
Merci Sonia. Les deux parties se laissent le temps de la réflexion en vue d'un éventuel appel. L'égalité sociale au cœur de l'engagement de Céline Duprat. La popiste locloise de 32 ans siège depuis cette législature au Grand Conseil neuchâtelois. Elle était l'invitée de la matinale aujourd'hui. Céline Duprat a fait ses armes au Conseil communal de la Mère Commune. Son engagement social est aussi bien présent dans son travail puisqu'elle est juriste au syndicat Unia. La mise en œuvre d'un salaire minimum dans le canton de Neuchâtel fait partie des grands combats gagnés qui lui tenaient à cœur. Mais ce n'est pas suffisant. Céline Duprat.
La seule manière de lutter complètement contre cette précarité, c'est le revenu de base inconditionnel qui assurerait une certaine égalité, surtout avec maintenant la crise qu'on connaît actuellement, qui accentue les disparités sociales. Je pense qu'effectivement, on devra revenir à parler de ça, parce qu'en plus maintenant, avec toute la robotisation et l'évolution dans le cadre de l'emploi, je pense que c'est la seule solution.
Le revenu de base inconditionnel avait été refusé par le peuple en 2016. Pensez que maintenant, avec cette crise sanitaire, les mentalités ont peut-être évolué dans le sens de ce revenu?
J'ai envie de dire, je l'espère, parce que c'est vrai que la crise, on a tous été touchés d'une certaine manière par la crise, par un aspect ou l'autre de la crise. Et je pense que, ben oui, on a vu, quand on a des circonstances exceptionnelles, ben là c'était des circonstances sanitaires, mais ça peut être d'autres circonstances. Et on a besoin d'apports pour continuer à avoir une société qui tourne, malgré tout.
Céline Duprat qui était aujourd'hui l'invitée de Sarah Massy dans la matinale. Demain, Jules Aubert, étudiant de la faculté de droit à l'université de Neuchâtel, sera l'invité de la matinale. Il viendra nous parler de son mémoire de master. Il s'intéresse à la torture qui était encore présente au XIXe siècle à Neuchâtel. Pas de fête des vendanges à Neuchâtel, mais les carrousels sont là. Malgré l'annulation de la manifestation en raison du Covid, les forains arrivent. Ils ont installé leur attraction lundi matin sur la place du Port et la place Alexis-Marie Piaget. Les manèges tourneront dès vendredi après-midi et jusqu'au 3 octobre. Le certificat Covid ne sera pas obligatoire. En revanche, les amateurs de voltige devront respecter les distanciations sociales et se désinfecter les mains. Le marché de mardi matin prochain est déplacé à l'ouest de la Poste. Les camions ne vont pas se multiplier dans le centre de Baule. En tout cas, le conseil communal de Millevigne dément une rumeur qui circule dans le village. Selon celle-ci, le nouveau pont du Bois Coinchier ne laisserait passer que les véhicules de moins de 3,5 tonnes. En réalité, l'ouvrage qui enjambe les voies de chemin de fer entre Baule et Boudry supportera le passage des 40 tonnes. Seule la longueur et la largeur des véhicules sera limitée. L'inauguration est prévue pour le 15 octobre. En parallèle, une consultation sera menée en amont du réaménagement durable de la zone 20 du centre du village.
Le conseil communal a décidé de procéder à une démarche participative. Donc il y a des ateliers qui vont être organisés à la mi-octobre. Et puis ça concernera bien sûr les riverains avec des professionnels qui vont écouter et noter les remarques et les commentaires des riverains, les problèmes que rencontrent dans cette zone. Alors on va prendre leurs remarques en compte dans la mesure du possible puis essayer de les intégrer au nouveau projet. Cette zone fera l'objet aussi de gros travaux en sous-sol. Et dans le cadre de ce projet qui sera présenté au conseil général courant 2022, on l'espère, on intégrera tout le raménagement surface.
On entendait la conseillère communale Marlène Lantemann avancer travaux. Des réaménagements temporaires seront mis en place afin de faire en sorte que les véhicules respectent la zone 20 du village. Le projet de revenu de base inconditionnel fait son grand retour en Suisse. Une nouvelle initiative populaire a été lancée ce matin à Berne. Oubliée, la votation sur le même sujet en 2016, où plus de trois quarts des votants avaient rejeté un RBI jugé flou et infinançable. Le comité d'initiative se dit ni de droite ni de gauche. Il dit avoir retenu les leçons de 2016 pour financer le RBI. L'initiative veut taxer les transactions financières, le chiffre d'affaires des entreprises technologiques et les revenus des capitaux. On écoute l'une des initiantes, la vaudoise Kalina Angelova.
Aujourd'hui, on voit que le système social et le système économique a des failles. De nombreuses personnes qui ont été précarisées, les personnes qui étaient déjà précarisées ont été encore plus. Et quoi de mieux qu'aujourd'hui pour se rendre compte qu'on a besoin d'une autre solution, on a besoin aujourd'hui de penser le monde autrement. Et c'est vraiment une urgence maintenant. Le texte change. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les prestations sociales existantes aujourd'hui vont être adaptées, mais on ne peut pas exactement dire de quelle manière, on ne peut pas aller dans des détails aussi profonds parce que ça va être décidé ultérieurement par le Parlement. Et surtout, on dit clairement que le RBI est finançable par le secteur financier notamment.
L'association Revenu de base Suisse s'appuie sur 10 personnes qui représentent toutes les générations, les régions du pays et avec une majorité de femmes. La présentation de ce comité par l'un de ses membres, le Genevois Thomas Produit.
On est un comité de gens simples, on va dire, mais qui s'articule autour de deux personnes qui sont illustres. On a Oswald Si, qui était déjà là à la dernière fois. Donc finalement, lui, il n'est plus à présenter dans le cadre de cette idée. Et aussi Rebecca Pagnan, qui a justement eu ce projet à Zurich, où justement ils ont vraiment tenté de faire une sorte de RBI à petite échelle. Le comité s'articule autour de cette hétérogénéité, justement pour nous donner de la force, tout en s'appuyant sur des gens qui ont de l'expérience et qui sont déjà, on va dire, en vue, si j'ose dire, sur ce sujet.
Le comité d'initiative pour la création d'un revenu de base inconditionnel en Suisse a 18 mois pour recueillir et déposer 100 000 signatures. Toujours à Berne, le Conseil des États est prêt à abolir la taxe sur la valeur locative. Il a accepté ce matin par 26 voix contre 15 d'entrer en matière sur la réforme d'un système critiqué depuis de nombreuses années. L'imposition de la valeur locative serait supprimée pour les logements occupés par leurs propriétaires. En revanche, les résidences secondaires continueraient d'être taxées. Des législatives sous surveillance. Le conseiller national socialiste jurassien Pierre-Alain Fridé s'est rendu en Russie pour y observer les élections législatives. Il était à la tête d'une délégation du Conseil de l'Europe, mais leur travail sur place a rencontré quelques difficultés. En raison de la pandémie de coronavirus, la Russie a demandé à ce que la délégation de surveillance soit fortement réduite. Ce sont finalement 5 parlementaires qui se sont rendus sur place. Ils ont procédé à une évaluation de la situation, faute d'avoir les moyens de réaliser une vraie observation du scrutin. Toutefois, pour Pierre-Alain Fridé, il n'aurait pas été impossible de faire venir une délégation de surveillance plus importante malgré la pandémie.
À l'évidence, dans un pays gigantesque tel que la Russie, qui va de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, avec 100 000 bureaux de vote, avec l'importance de moyens qu'il faudrait pour vraiment observer, imaginez quelques centaines d'observateurs, ce n'était pas effectivement un nombre gigantesque. Voilà, on prend note de leur décision, qui était une décision aussi des autorités sanitaires du pays. C'est clairement sur place, la situation sanitaire est un peu améliorée et on n'a pas ressenti vraiment de très grandes difficultés, de grandes tensions. Mais voilà, on doit faire avec. On était invité par le pays. Quand vous êtes invité, vous devez un petit peu vous plier à certaines règles. Mais en tout cas, il y a eu discussion, il y a eu contact. Même, vous savez, avec 500 observateurs, on aurait eu des éléments qui auraient permis de faire une analyse un peu plus pointue. Mais savoir exactement ce qui s'est passé dans ce grand pays, c'est quand même très compliqué.
Une marge de manœuvre fortement réduite donc, mais le travail réalisé sur place servira de documentation pour les prochaines missions. Il s'agit d'un long processus.
Vous savez, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas un endroit où il y a de grandes choses révolutionnaires qui se passent. Quand vous voulez faire progresser les pays vers plus de démocratie, vous ne pouvez pas prendre les armes et leur imposer. On passe par la négociation, la discussion, on montre des contradictions. Et c'est à travers en fait, ce travail de fourmi prolongé, ce travail parlementaire, ce travail de relations, de contacts, qu'à la longue, des choses évoluent. Et notre but, vraiment, c'est de faire en sorte que les minoritaires, les gens qui n'ont pas la possibilité d'être à la Douma, d'être représentés, qui se sentent atteints dans leurs droits, qu'ils puissent aussi s'exprimer.
Ce matin, après le dépouillement de 85% des bulletins, le parti du président russe Vladimir Poutine remporterait 315 des 450 sièges en jeu, ce qui lui octroie la majorité nécessaire pour modifier la constitution sans consulter les autres formations politiques. Enfin, les talibans tentent de rassurer après avoir complété leur gouvernement, un exécutif sans femmes, mais les collégiennes et lycéennes pourront retourner à l'école aussi vite que possible, selon leur porte-parole. Les talibans affirment par ailleurs avoir assez d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires afghans, mais disent avoir besoin de temps. De nombreux fonctionnaires se plaignent de ne pas avoir reçu de salaire depuis au moins 2 mois.
12h26 sur RTL.
Sport. C'est le genre de match où il est obligatoire de marquer des points. La Chaux-de-Fonds reçoit Zug Academy ce soir en Swiss League de hockey sur glace. Coup d'envoi 19h45. Au classement, après 4 matchs, le HCC occupe le 8e rang avec 5 points, alors que Zug Academy n'a pas encore engrangé la moindre unité. Inutile de faire un dessin, il faut gagner face à une formation qui disparaîtra la saison prochaine, Marcel Jönschwender.
Oui, Zug Academy a entamé sa 6e et dernière saison en Swiss League. Les dirigeants du club alémanique retireront cette formation du championnat dès le prochain exercice. Les clubs fermes peu attractifs, comme encore les Ticino Rockets ou les Gezeka Lions, n'auraient-ils plus leur place en 2e division nationale? La question se pose aujourd'hui différemment. L'an dernier, en effet, la Swiss League s'était constituée en société anonyme, indépendante de la National League, en vue de mieux défendre ses intérêts pour rendre le produit, son championnat, commercialisable et aussi pour pouvoir intervenir au moment de la renégociation des droits TV. À Zug, les dirigeants ont préféré retirer leur club ferme, ne désirant pas se conformer aux nouvelles règles de l'ASA imposées par tous les autres clubs de Swiss League. Aujourd'hui, Zug Academy est sans avenir, mais pas sans force. La saison dernière, et on revient plus précisément au rendez-vous de ce soir, le HCC se souviendra de n'avoir engrangé que 4 points sur les 12 enjeux contre les jeunes loups zougois, dernier du classement. On souhaite mieux pour cette saison.
Merci Marcel. La Chaux-de-Fonds, Zug Academy, un match à suivre en direct sur RTN dès 19h30.